Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès. Aujourd'hui, c'est Marc Bisset qui est à la manette technique de cette émission. Et à la une, on le disait tout à l'heure avec Sophie Orange et Jérôme Florin, juste avant les infos, c'est une émission spéciale que nous avons organisée, l'heure du crime, RTL, à l'occasion de la sortie prochaine, donc mercredi prochain, du film d'Alexandre Arcadi, 24 jours. Et je disais tout à l'heure que il faut voir ce film pour comprendre qu'on est bien au-delà d'un fait divers et pour mettre des images et des mots sur ces 24 jours de calvaire subis bien sûr et avant tout par Ilan Halimi mais aussi par sa famille, ses proches voilà, on va en parler dans un tout petit instant avec Alexandre Arcadi qui est mon invité. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et j'ai demandé également à Maître Gilles Antonovitch d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été et vous êtes l'avocat de celle qu'on a appelée Lapin, oui. Zelda. Yalda, pardonnez-moi, qui est donc cette jeune fille qui avait été envoyée comme appât par Fofana pour draguer ce garçon qui était juif et dont Fofana pouvait penser qu'il était riche parce qu'il était juif. On reviendra sur tout cela tout à l'heure. Et tout de suite, je voudrais qu'on entende la voix de Madame Ruth Halimi. Elle a gardé le silence, comme tout le monde, pendant très très longtemps, à la demande d'ailleurs de la police. Les journalistes aussi ont gardé le silence pendant de longues semaines. Et puis, après la découverte du corps d'Ilan Halimi, en quelques jours, l'affaire a été bouclée. Ce qui fait qu'on peut se poser rétrospectivement beaucoup de questions sur la stratégie des enquêteurs. Et le 21 février 2006, Ruth Halimi répond à une interview de Thomas Proutot. Elle exprime bien sûr sa souffrance, mais vous allez l'entendre également sa colère.
C'était un bon garçon. J'adorais mon fils parce qu'il était tellement bon. Mais je me disais, c'est normal, c'est mon fils. Donc pour moi, c'est le meilleur. Et au travers des témoignages de ses amis, de ses employeurs, on m'a dit que c'était un être exceptionnel, que c'était un ange. La façon dont il est parti, je pense que c'était un ange qui avait fini sa mission sur Terre et que Dieu l'a appelé. Ils m'ont tout enlevé, mais je dois continuer pour mes filles et ma petite fille, pour que la vie continue. Et que le message soit repris par les jeunes et que jamais on oublie le sacrifice d'Ilan. Il a été sacrifié, sanctifié en tant que jeune homme juif. Aujourd'hui, c'est le peuple juif. Demain, ça peut être n'importe quelle confession, n'importe quelle couleur, au nom d'une violence et d'une haine gratuite.
Alexandre Arcadi, comment vous avez pris la décision de faire un film sur cette affaire et pourquoi ?
Écoutez, en 2006, on a tous été totalement ébranlés, traumatisés. Comment en France c'était possible ? Comment en France on pouvait désigner un jeune garçon français de confession juive au prétexte qu'il était juif, il était riche, alors qu'il gagnait 1200 euros par mois ? C'est une sorte d'aberration absolue, de fantasme incroyable qui remonte vraiment aux heures les plus sombres de l'Europe, 60 ans plus tôt. Et effectivement, je ne pouvais pas rester sans voix. Je ne savais pas quel chemin il fallait prendre pour aborder cette histoire au cinéma, parce que c'était compliqué. Pour moi, il n'était pas question d'être du côté de ces barbares, autoproclamés barbares. Hein. Je n'avais pas du tout envie de me mettre de leur côté, de leur trouver une quelconque excuse ou indulgence. Je fais une toute petite parenthèse. L'ensemble de cette bande qui a été condamnée, qui ont fait de la prison, certains sont déjà sortis, à aucun moment, dans la solitude de leur cellule, le soir en se couchant, ils n'ont eu la moindre petite réaction pour dire qu'est-ce qu'on a fait, le moindre mouvement pour demander pardon. Jamais, aucun de cette bande n'a eu le moindre mouvement du cœur. Et donc, me voilà en 2006 face à l'ignoble, à l'ignominie. En plus, un débat incroyable comment peut-on même supposer que ce n'est pas un crime antisémite, alors que toute l'enquête prouve, pas à pas, texte après texte, qu'on a désigné ce garçon parce qu'il était juif, et on l'a traité comme, je ne sais pas, comme un sac de pommes de terre, comme un objet déshumanisé. Eh bien, en 2006, lors de la manifestation à la République en mémoire d'Ilan, j'ai remarqué que nous étions nombreux, certes, mais une grande partie de la communauté juive était là. Où étaient les autres? Où était la France? Et je me suis souvenu à ce moment-là qu'au moment de Carpentras, du saccage du cimetière de Carpentras, 1 million de Parisiens étaient dans la rue et le président de la République en tête. Et à ce moment-là, je me dis, il y a une dérive, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis Ilan, on va l'oublier, sûrement on va l'oublier. Donc il m'a fallu attendre le récit de Ruth Halimi, qu'elle a écrit avec Émilie Frèche, pour trouver le chemin, trouver la route. Mmh. Elle m'indiquait la manière dont il fallait raconter cette histoire, d'être du côté des victimes, d'être du côté de la famille et d'être du côté de cette maman. Une maman, comme toutes les mamans de France, à qui on enlève et qu'on tue son propre garçon.
Alors je voudrais ajouter une chose, je suis pas du tout critique de cinéma, c'est très rare qu'on parle dans cette émission de cinéma, Alexandre Arcadie, mais j'ai eu le privilège donc de voir le film pour préparer l'émission, et j'étais en train d'en parler avec Gilles Antonovitch quand vous êtes arrivé dans ce studio, et je disais que bien sûr il y a ce que vous venez de dire, mais c'est pas un film de défense et d'illustration intellectuel sur l'antisémitisme. C'est les faits, rien que les faits, et les paroles, et rien que les paroles telles qu'elles ont été dites, ou les faits tels qu'ils ont été constatés. Et vous avez choisi donc de rester proche de la vérité de l'enquête et de l'histoire.
Il fallait pas en dire plus, hein. Les faits seuls suffisent. C'est-à-dire que quand vous avez un Youssouf Fofana qui harcèle téléphoniquement parlant Didier Halimi et donne 700 coups de fil en 24 jours, et quand on voit ce qu'il a pu dire dans ses coups de téléphone, on est effaré par la violence des mots, par l'insanité de cet esprit complètement perturbé et torturé.
Alors, on va revenir à l'histoire dans quelques instants et au film. Maître Antonovitch, je voudrais dire que vous êtes avocat, vous avez été l'avocat donc de Yalda, et vous êtes aussi écrivain, et vous avez publié un livre, L'affaire Halimi, avec ce sous-titre du crime crapuleux au meurtre antisémite, histoire d'une dérive. C'est un livre qui est paru chez... Qui sort évidemment, parce qu'il y a également l'actualité du film d'Alexandre Arcadie. Il disait que aucun de ces gens qui ont été condamnés pour cette horreur, ce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, n'ont manifesté de regrets, de remords. Comment votre cliente, dont vous ne parlez quasiment pas dans le livre, mais je peux pas ne pas vous poser la question, qu'est-ce qu'elle a dit là-dessus? Est-ce qu'elle a eu conscience d'être en tout cas l'instrument de quelque chose qui était
bien évidemment
autre chose qu'un fait divers?
Bien évidemment. Moi, je veux que les choses soient claires. Je ne veux pas faire d'ombre ni au film que je n'ai pas vu, que je n'ai pas encore pu voir, ni d'ombre à la douleur et à la souffrance de la famille Halimi. La différence qui existe entre le regard d'Alexandre Arcadie et le mien, c'est que, en ce qui me concerne, j'ai participé aux 5 mois d'audience. Mmh. Et je crois que j'ai une vision beaucoup plus proche quand même du dossier, parce qu'on peut pas approcher le dossier au travers, par exemple, du livre qui a été écrit par Émilie Frèche. Monsieur Halimi parlait, par exemple, des 700 coups de fil qui ont été donnés par Fofana à la famille. Dans ces 700 coups de fil, pas une fois le mot juif n'est prononcé, par exemple. C'est un exemple, mais ça a son importance. En ce qui concerne les...
Il dit bien lui-même, nous avons choisi Ilan Halimi parce qu'il était juif et parce que les juifs sont riches et parce que la communauté juive est solidaire.
En fait, c'est plus compliqué que ça. Fofana est un loser, un type qui organise depuis plusieurs mois, même plusieurs années, des enlèvements. Et tous ces enlèvements ratent, lamentablement. Et au cours de ces enlèvements, il a essayé d'enlever des musulmans, il a essayé d'enlever des Français moyens. Il a, bon.
Sur 10 personnes. Et puis, un jour. 10 personnes, 6 personnes de confession juive.
Non. Sur 10 personnes, oui. Il y en a 2 qui ont été enlevées dans ce que j'appelle dans mon livre le syllogisme fofanien. Qu'est-ce que c'est que le syllogisme fofanien? Je vais vous l'expliquer. Parce que Fofana, c'est comme un joueur qui a découvert une martingale. Au casino.
Oui. C'est-à-dire,
Saint-Martin-Gall, c'est très simple. C'est qu'un jour, il a appris à la télévision que Israël avait libéré 700 prisonniers palestiniens en échange du retour de la dépouille de quelques corps de soldats israéliens. Voilà. Et ce jour-là, il a eu une illumination. La communauté juive est solidaire. C'est ça le début. Le premier terme de son syllogisme, la communauté juive est solidaire. Et il envisage tout à fait que la personne, le juif qu'il va enlever, parce qu'effectivement il va l'enlever parce qu'il est juif, il envisage tout à fait que ce juif n'ait pas d'argent. Pour lui, sa martingale, c'est la communauté juive est solidaire, la communauté juive paiera parce qu'elle est solidaire. C'est comme ça qu'il raisonne.
Alors, on va faire une première pause. Dans un instant, je vais vous rappeler en quelques mots les circonstances dans lesquelles Ilan Halimi a été enlevé, et puis malheureusement l'épilogue tragique 24 jours plus tard, et puis on reviendra au film d'Alexandre Arcadie, à toutes les questions qu'il pose également, à la fois ces questions qu'on est en train d'agiter, mais aussi bien d'autres, autour des stratégies notamment des enquêteurs, et du rôle de la famille, des proches d'Ilan Halimi dans ce drame. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
20 janvier 2006, c'est un vendredi, soirée de Shabbat. Ilan Halimi s'est rendu, comme il le fait régulièrement, dans le 12e arrondissement chez sa mère. Et puis, il quitte le domicile à bord de sa Twingo grise après avoir passé un certain nombre de coups de fil un peu plus tard dans la soirée. Il a envoyé également plusieurs SMS à des amis pour leur proposer de passer la soirée ensemble. Malheureusement, aucun d'eux ne semble libre ce soir-là. Et à 22h24, il va recevoir un coup de fil d'une jeune femme qui se prénomme Melvina, rencontré quelque temps plus tôt dans sa boutique de téléphonie mobile où il était employé. Il ne connaît pas cette jeune femme, mais elle lui avait laissé entendre, disons, qu'elle ne serait pas contre un rendez-vous galant avec lui un jour ou l'autre. Et il lui avait donné son numéro de portable, au cas où. Après cet appel de Melvina, Ilan se rend au rendez-vous qu'elle vient de lui fixer. Il la rejoint quelques instants plus tard dans un café parisien près de la porte d'Orléans. Et puis ils prennent ensemble la direction de Sceaux, où la jeune femme lui a demandé de la raccompagner. Et c'est dans cette petite ville de la banlieue sud que les policiers vont localiser plus tard la dernière trace d'activité de son portable. Le destin d'Ilan Halimi a basculé cette nuit-là à 0h44. Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs de la brigade criminelle vont jouer au chat et à la souris avec des ravisseurs qui envoient leurs messages par SMS, par Internet ou en appelant directement au téléphone un certain nombre des proches d'Ilan Halimi. À plusieurs reprises, ils échoueront à quelques minutes près à l'arrêter, en tout cas à arrêter l'un des ravisseurs dont ils réussiront à capter quand même l'image grâce à des caméras de surveillance. Ils sauront très vite que le cerveau de l'enlèvement utilise comme appât une ou plusieurs jeunes femmes dont ils réussissent, pour l'une d'entre elles en tout cas, à établir un portrait robot. Mais au fil des jours et des semaines, l'enquête s'enlise et n'aboutit à rien de concret. La presse est au courant, on l'a dit, mais elle a accepté de ne rien publier pour ne pas mettre en jeu la vie de la victime. Et puis le lundi 13 février, Ilan Halimi est découvert par une automobiliste qui se rend à son travail. Il agonise à proximité de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Il décède lors de son transport à l'hôpital Cochin. L'identité de la victime, l'histoire de son enlèvement sont alors rendues publiques. Le lendemain matin et le lendemain sur RTL, on entendait les explications, les premières explications sur cette affaire qu'on découvrait. Elles sont signées Thomas Proutot.
L'homme retrouvé moribond hier matin, frappé, brûlé et poignardé sur plus de 80% du corps, avait été enlevé le 20 janvier dernier à Paris. La victime, bel homme, selon les enquêteurs, vendeur dans un magasin de téléphones portables à Paris, avait été abordé par une jeune femme agréable quelques jours plus tôt. Dans la boutique, celle-ci avait mimé le coup de foudre, échange de numéros de portable, puis faux rendez-vous. Il est alors kidnappé. Les ravisseurs contactent la famille du vendeur de téléphone pour exiger une rançon. Les négociations durent plusieurs jours. La somme demandée varie de 200 000 à 400 000 euros. Mais rien n'aboutit, selon le procureur de Paris, Jean-Claude Marin. L'inconstance des ravisseurs et leur passage au final à un acte barbare sont à ce stade inexplicables.
Voilà, donc je voulais qu'on en réentende ces quelques documents RTL. Alexandre Arcadie, on revient au film. Ce film qui va donc sortir mercredi prochain sur tous les écrans. On n'a pas parlé des comédiens que vous avez choisis pour ce film. Zabou Breitman qui interprète le personnage de Madame Halimi.
Oui, Zabou Breitman qui a repris le rôle comme ça en quelques jours, puisque c'est Valérie Benguigui qui nous a quitté le premier jour de tournage, qui devait interpréter Ruth Halimi. Il y a également Pascal Elbé qu'on n'a jamais vu dans un rôle d'une telle densité, d'une telle humanité, si je puis dire. Vraiment, il est remarquable, Pascal. Jacques Gamblin qui interprète le chef de la police judiciaire. Sylvie Testu, psychologue. Voilà, Eric Caravaca, un autre policier, et bien d'autres acteurs, puisqu'il y en a plus de 60 dans le film.
Alors, justement, Jacques Gamblin, quand il incarne ce policier qui a mené cette enquête et qui a choisi dès le départ une stratégie qui, évidemment, on dit c'est toujours facile de critiquer après coup, mais sur le moment, pour lui, il joue son rôle, Gamblin, d'une façon que je suppose très proche de ce qui s'est passé dans la réalité. Oui, et on a un policier qui est sincère, qui veut vraiment retrouver Ilan Halimi, et il y a eu certaines nuits, des centaines de policiers sur le terrain.
400 fonctionnaires du Quai des Orfèvres ont été 24 heures sur 24 sur cette affaire, en essayant par tous les moyens de retrouver Ilan. C'était vraiment, il y avait une volonté, il y avait quelque chose de fort. Ils s'étaient impliqués. Puis ils avaient près d'eux toute cette famille qui était une famille ordinaire, une famille française qui se retrouvait dans ces locaux du 36 Quai des Orfèvres, désœuvrés, vivant une espèce de cauchemar. Donc dans un film policier qu'ils n'avaient pas choisi vraiment. Et ils ont fait fausse route. Ils ont fait fausse route parce que dès le départ, ils ont interprété les multiples coups de téléphone de ce Youssouf Fofana venant d'Abidjan et venant de Paris comme s'ils avaient affaire à des malfrats organisés, une tête à Abidjan, les bras armés en France.
Des spécialistes de l'informatique, voilà. Parce qu'il y avait tout un jeu de pistes.
Exactement. Ouais. Et surtout, il faut dire que la police française n'avait pas l'habitude des enlèvements. Hein. Ça, c'est contrairement aux Italiens ou aux Mexicains, et heureusement pour nous. Donc, un petit peu une route comme ça qui est hasardeuse. On ne veut pas prendre en compte les premiers signes. Tout à l'heure, monsieur disait chez Fofana, il n'y avait pas cet aspect antisémite, mais la première chose qu'il fait, c'est d'envoyer comme ça, comme signe, la première sourate du Coran. On met en scène les premières photos comme si on était au Pakistan ou en Afghanistan, c'est-à-dire le schéma exact de tous ces djihadistes.
Oui, comme un otage.
Quand on n'y arrive pas, on envoie un message à un rabbin. Tout ça va dans une stratégie qui est une stratégie très précise. On savait très bien qui on avait avec soi. Et le plus terrible, c'est pas qu'il souhaitait seulement soutirer de l'argent à la communauté, entre guillemets. Et ça, je rappelle seulement une chose, c'est que en France, il y a 16% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et que dans la communauté juive, on retrouve ce même pourcentage. Hein. Je veux dire, toutes ces images comme ça, terribles et nauséabondes, sont encore ancrées dans des esprits faibles comme ça. Et donc, cet homme va non seulement activer toutes ces possibilités pour soutirer de l'argent à cette famille, mais les barbares, la bande, vont traiter Ilan comme un moins que rien, c'est-à-dire c'est plus un homme, c'est un animal, on va le laisser mourir de faim. Et là on retrouve les vieux schémas, les vieilles images de la Shoah, parce que tout est réuni, et on le voit dans le film. On la femme, on le torture, on lui rase les cheveux, on le désinfecte à l'eau de Javel, on le lâche dans un bois, on le brûle, enfin tout d'un coup, il y a comme ça des images qui sont édifiantes et qui montrent bien qu'il y a mal, qu'il y a surtout cette volonté de tuer, de ne pas laisser vivant un être humain, un Français qui est juif.
Alors, on va revenir dans un instant au dossier, aussi avec Maître Antonovitch, revenir à cette enquête de la police, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Je peux dire juste à titre personnel, pour avoir parlé de cette affaire avec quelques membres de groupe de la CRIM, c'est un calvaire hein, pour eux aussi.
C'est une cicatrice
terrible, parce qu'il y a un sentiment d'échec épouvantable. Exactement. Mais on va revenir quand même sur les questions que je posais tout à l'heure, pourquoi cette stratégie et pas une autre, puisque si on avait, alors avec des si, on peut faire beaucoup de choses, si on avait publié ce fameux portrait robot, si on avait publié les mauvaises photos de celui qu'on avait réussi à retrouver sur les caméras de surveillance, que se serait-il passé? On y vient dans un instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Je m'appelle Ruth Halimi. J'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup.
Ilan,
qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe! Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi?
Il a été enlevé.
Enlevé? Comment ça? Je comprends pas.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
J'étais là. Il m'a appelé, il m'a demandé de regarder la fille qui sortait de sa boutique, là, de l'autre côté du boulevard.
C'est elle qui a entraîné votre fils.
Le 20 janvier, à 21h53, Ilan reçoit un coup de fil de la part.
Maïma.
Et après, on n'a plus aucun signal.
Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai.
Allô? On veut 450 et on les veut tout de suite.
L'appel vient d'Afrique.
C'est quoi ce bordel?
Je veux parler à Ilan.
C'est moi qui dis ce qu'on fait!
Il faut trouver l'argent, c'est un fou.
Il faut pas tomber dans ce piège-là. Hein. C'est seulement pour faire peur.
On peut pas juste leur donner ce qu'ils demandent.
Non, madame, en France, on ne paye pas. C'est un principe, sinon on aurait des enlèvements tous les jours, vous comprenez?
Allô?
Ok, c'est bon, je l'ai. C'est un 06 depuis Paris.
Qui là-bas?
Personne.
Quoi? Il a jamais été deux fois dans le même cyber. Je peux pas être partout, bordel!
À chaque fois qu'il te demande de raccrocher, tu raccroches. Et à chaque fois, c'est Ilan qui souffre un peu plus. Je le sais, ça, je le sens.
Ils savent ce qu'ils font.
Non, ils savent pas ce qu'ils font! Il y a écrit un juif a été enlevé, il n'y a pas écrit un homme a été enlevé. Ils vont le tuer. Je vous assure qu'ils vont le tuer. Il faut les croire, il faut faire tout ce qu'ils disent.
Oui.
Tais-toi. Depuis le début, vous avez compris. Pourquoi vous avez peur de la vérité?
S'il vous plaît, ils vont me tuer. Ne me laissez pas, s'il vous plaît.
Maman.
Maman, s'il te plaît.
20 janvier 2006, 13 février, 24 jours, c'est le titre de votre film, Alexandre Arcadie, qui va sortir donc sur tous les écrans, comme on dit, mercredi prochain. Ce 13 février, donc, on le rappelait tout à l'heure, on découvre le corps de d'Ilan Halimi. Il va mourir pendant son transfert à l'hôpital. Et puis après, en quelques jours, à partir du moment où l'affaire est publique, où on publie dans les journaux un portrait robot qu'on évoquait tout à l'heure de la jeune femme qui l'a entraînée dans ce guet-apens, eh bien, dans la nuit du 16 au 17 février, 15 personnes sont interpellés par les enquêteurs parce que cette jeune femme, celle du portrait robot, s'est présentée à la police parce qu'elle pouvait pas faire autrement. Et Youssouf Fofana sera pris quelques jours plus tard, interpellé d'abord en Côte d'Ivoire avant d'être rapatrié à Paris. Alors, on va parler de cette stratégie policière que vous évoquez longuement, hein, évidemment, dans le film, c'est aussi au centre de l'histoire. Mais d'abord, on va entendre un autre document RTL. C'est Ruth Halimi dans cet entretien dont on a passé un extrait tout à l'heure le 21 février qui pointe au micro de Thomas Proutot les lacunes si l'on peut dire dans l'enquête et dans la stratégie des policiers de la CRIM.
La police a fait un boulot fabuleux. Ils ont déployé plus de 200 hommes. Et ils essayaient de trouver. Mais je pense que lorsqu'ils nous ont demandé de couper les contacts avec les ravisseurs, n'est pas été une chose évidente. Et c'est à la suite de ça, à mon avis, qu'ils se sont acharnés. Parce que comme m'a dit un des ravisseurs au téléphone, M. Halimi ne nous respecte pas. Il veut jouer au plus malin, mais nous serons les plus malins.
Vous avez contesté cette stratégie des policiers?
Oui, je leur ai dit que c'était dangereux.
Et vous avez
eu l'impression qu'on a inversé les priorités, que la stratégie n'a pas été la bonne.
Non, la stratégie était bien sûr de sauver, comme il me disait, le fiston, mais il voulait aussi leur mettre la main dessus, et il y a certainement quelque chose dont ils n'ont pas tenu compte. En tous les cas, je vais faire en sorte que s'il y a eu des lacunes, que ce soit rectifié d'une manière ou d'une autre. Qu'on réexamine cette façon d'aborder des kidnappings, parce que la vie humaine est plus importante que la rançon que l'on peut payer.
Alors, parlons de ce travail de la police que vous évoquez, Gilles Antonovitch, dans votre livre sur l'affaire Halimi.
On a rarement vu pareil ratage. On a rarement vu pareil manque de psychologie de la part des enquêteurs. C'est vrai que quand on voit le dossier, on est quand même atterré parce que, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que Fofana fait des allers-retours entre la Côte d'Ivoire et la France. Il part deux fois en Côte d'Ivoire. Il téléphone de la France. On sait qu'il téléphone de France. Mmh. Puis ensuite, il téléphone
et
de Côte d'Ivoire.
Et on identifie évidemment l'endroit d'où il appelle.
Et on fait jamais le rapprochement. On se rend jamais compte qu'il y a précisément le temps nécessaire pour aller de France en Côte d'Ivoire. Mmh. Et c'est vrai que...
C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la liste des passagers, par exemple, du vol.
Il y a deux avions qui font le vol Paris-Abidjan par jour. Mmh. On ne contrôle pas la liste des passagers. Quand on a demandé aux enquêteurs au procès pourquoi... Vous savez, la réponse qu'on a eue, elle est ahurissante. On a eu comme réponse, mais vous vous rendez pas compte avec le nombre de gens qui sont des trafiquants de drogue et qui ont des casiers judiciaires qui circulent sur une telle ligne. Ça aurait été des vérifications sans fin. Ça fera plaisir aux gens qui utilisent cette ligne de façon régulière.
Mais oui, pourtant, Alexandre Arcadi, avec les démêlés qu'avait déjà eu Fofana avec la police, il aurait certainement été...
Il voyageait sous son nom.
Il voyageait sous son nom.
On le sait maintenant. Et c'est pas deux fois, mais quatre fois où il a fait pendant les 24 jours des allers-retours. Mais ils ont eu le sentiment que c'était pas la même voix. Alors que les parents, eux
le reconnaissaient. C'est évoqué dans une scène du film.
Oui, c'est ça. Et ça a toujours été la même stratégie de dire non, vous imaginez que c'est le même, mais ce n'est pas le même. Et on n'a pas poussé l'investigation dans ce sens-là. Jamais. Et ça, c'est une vraie lacune.
Ouais. En plus, Fofana, il a une diction extrêmement particulière. Il bégaye. Il a des phrases qui reviennent. Et il y a un moment où vraiment il perd complètement la tête parce qu'il ne sait plus où il en est. Il sent bien que tout ça va se terminer très mal. Et il dit « Je rentre ». Il dit « Je rentre ».
Oui, dans une des conversations téléphoniques enregistrées.
Il lui dit « Je rentre ». Si tu ne me donnes pas ce que je te demande, je rentre.
Oui.
Ce sont des éléments qui auraient dû faire tilt, quoi.
Ouais. Donc ça fait partie. Qu'est-ce qu'il y a comme autre pour vous, Alexandre Arcadi, zone d'ombre ou
Écoutez, moi, dans le film, j'ai pas voulu charger la police parce que je pense qu'ils ont mis toute leur énergie et aujourd'hui avec
c'était certainement le cas.
On peut recommencer toute l'enquête et Ruth Halimi dans son récit le dit très justement. Dans toute enquête policière, il y a un facteur chance et Ilan n'a pas usé de chance jamais. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que il y a quand même à partir du moment où même Ruth décèle évidemment ces relents de l'antisémitisme flagrant dans toutes ces conversations, dans tous ces envois, on ne veut pas en tenir compte. Alors à leur décharge. Quelque temps avant, il y avait la fille du RER, cette fameuse jeune fille qui avait accusé...
C'est évoqué dans la réponse d'un policier, dans votre film.
Donc, on avait des précautions comme ça. Il faut dire aussi que c'est 6 mois après les émeutes des banlieues de 2005. Oui. Donc, pas d'huile sur le feu, mais quelle huile sur le feu ? On n'ose pas désigner. Oui. Vous savez, en France, souvent, on croit régler les problèmes en les cachant sous le tapis. On ne désigne rien. On l'a vu dernièrement. Heureusement que l'ancien ministre de l'Intérieur a désigné exactement qui il fallait pour interrompre un processus comme ça de haine déferlante de ce prédicateur antisémite. Voilà, je crois que là on est au cœur d'un édifice où on ne veut pas regarder là où il faut.
Alors, on regardera tout à l'heure là où regarde Gilles Antonovitch dans son livre, puisqu'on en a parlé, on a abordé la question tout à l'heure, mais on va faire ça dans quelques minutes. On va faire une pause et ensuite nous allons prendre Elsa Vigoureux au téléphone. Elsa Vigoureux est journaliste au Nouvel Observateur. Elle a publié elle également un livre sur l'affaire, qui le livre étant évidemment la publication de son enquête, l'affaire du gang des barbares. C'était le titre de ce livre paru aux éditions Flammarion dans la commission, dans la collection Enquête en octobre 2010. Et avec elle, qui a enquêté sur place aussi dans les cités, on va se poser les questions qui s'imposent, c'est-à-dire comment est-il possible que pendant ces 24 jours, personne n'ait rien dit, n'ait appelé la police, alors que beaucoup d'habitants savaient qu'il y avait un enlèvement en cours.
L'heure du crime sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime aujourd'hui, un retour sur cette terrible affaire qu'on appelait du gang des barbares et que là il faut appeler l'affaire Ilan Halimi, parce que c'est tout le sujet du film d'Alexandre Arcadi qui va sortir mercredi sur tous les écrans, 24 jours, et qui raconte de l'intérieur les coulisses de l'enquête, de l'enlèvement, de la séquestration. Nous allons y revenir dans un instant avec lui, avec également Maître Gilles Antonovitch sur cette question. Question du crime crapuleux ou du meurtre antisémite qui oppose encore un certain nombre de gens sur autour de ce dossier. Mais d'abord, nous allons prendre Elsa Vigoureux en ligne. Bonjour, bonjour Elsa.
Bonjour Jacques.
Alors donc je rappelais votre livre il y a un instant et votre enquête. Vous êtes allé sur place, vous avez essayé de vous rendre compte comment il était possible que personne ne soit au courant de cette disparition et de cette séquestration.
Alors, moi, je suis allée sur place au moment d'écrire mon livre, mais à vrai dire, j'ai surtout beaucoup plus suivi les deux procès, le stade judiciaire, si vous voulez, de cette affaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est la grande question de ce dossier, comment, en fait, ce silence a pu tenir aussi longtemps, sachant que, quand même, à la fin, il se craquelle, et d'ailleurs, si les enquêteurs réussissent à mettre la main sur Youssouf Fofana et le gang des barbares en question juste après, c'est bien parce qu'il y a une des protagonistes de cette affaire qui finit par un des appâts, qui finit par se rendre au commissariat et donner un nom. Parce que sinon, je ne sais pas si les enquêteurs auraient un jour mis la main sur Youssouf Fofana et sa bande. Donc, cette fille qui se rend au commissariat finit par parler quand elle se rend compte que les choses sont très graves et que surtout, c'est pas du tout. Enfin, on peut plus sauver Ilan Halimi. Oui. En fait, le silence dans cette affaire, il tient. Si vous voulez, moi je pense que Youssouf Fofana s'est beaucoup appuyé dessus, c'est-à-dire que c'est une culture aussi dans les cités, de ne pas parler et de ne pas dénoncer son voisin. Chacun s'occupe de sa petite misère et on regarde pas trop ce qui se fait à côté, on dénonce pas. Et puis il y a autre chose, c'est que il y a une trentaine de personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire, qui ont été condamnées. Ils se connaissent pas tous les uns les autres. Donc Fofana aussi a pris soin de s'adresser à certaines personnes pour tenir le rôle de geôlier, à d'autres pour tenir le rôle de rabatteuse. Enfin, ces gens-là n'ont pas toujours des liens entre eux et donc n'ont pas forcément eu l'occasion de toujours dénoncer les faits. Mais bon, ceci étant, on peut pas du tout ni comprendre ni excuser le fait de s'être tu pendant.
Je veux pas d'histoire, j'ai rien vu, quoi. Je veux rien voir, je veux rien savoir.
C'est vraiment la grande question de ce dossier. C'est ce qu'il y a de plus grave dans ce dossier, en fait. Ce silence qui a tenu si longtemps.
Et en même temps, oui, je vois Alexandre Arcadi voulait dire quelque chose.
Évidemment, on s'interroge sur ce silence assourdissant de tous les habitants de cette cité qui ont dû remarquer quelque chose.
Bah, on le sait, on l'a su dans le procès,
bien sûr.
Les petits en parlaient.
Mais au fond, ce qui est le plus. Pour moi, c'est en reconstituant cette affaire, et j'ai été le plus choqué par ça, quand j'ai reconstitué cette bande de jeunes acteurs qui ont interprété le rôle, évidemment, j'avais en face de moi des blancs black beurre. Vous savez, ça voulait dire quelque chose pour nous qui avons fondé SOS Racisme. C'était un slogan tellement porteur d'espoir et de fraternité, et tout d'un coup, ce même slogan s'est retourné pour anéantir et assassiner un jeune Français comme eux du même âge. C'est ça qui a été la chose la plus choquante qui soit.
Oui, votre...
Il y a autre chose c'est que le kidnapping dans les quartiers veut apparaître aussi comme un business comme un autre.
Oui, oui, absolument. Ça existe aussi dans des règlements de compte entre trafiquants de drogue. Je reviens à vous dans un instant, Elsa Vigoureux, parce que Maître Antonovitch voulait
ajouter. Ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est que quand on emploie le mot gang, c'est complètement abusif, parce qu'effectivement, c'est une bande faite de briques et de broc. C'est pas un gang, c'est pas le gang de New York, quoi. Hein, ça a rien à voir, absolument rien à voir.
Et ce que je veux dire aussi, qui ont été recrutés par Fofana, à qui il a promis de leur donner de l'argent, beaucoup d'argent.
Mais c'est des petits jeunes qui traînent là. C'est vraiment n'importe quoi.
Mais ça n'excuse rien.
Mais ça n'excuse rien. On est bien d'accord.
Et ça, vous êtes très clair. Je voudrais dire quand même, parce que Gilles Antonovitch, je voudrais pas qu'il ait le mauvais rôle. C'est vrai qu'il préfère qu'on parle de crimes crapuleux que de meurtres antisémites. Ça, c'est une chose. Il donne ses arguments d'avocats et de citoyens et d'écrivains. Mais bien entendu, il n'excuse dans ce livre absolument aucun des aspects de l'affaire.
Je suis pour la vérité et je suis contre ce qui provoque en France des replis communautaires. Parce que ça me navre totalement. Donc je veux quand même rappeler la vérité judiciaire du procès, parce que ça, c'est quand même important. On a oublié quand même deux choses. Seul Fofana est responsable de la mort d'Ilan Halimi. Seul Fofana est responsable de cela. Aucun des autres n'était poursuivi, ni pour complicité de meurtre, ni pour
Il y a eu des mauvais traitements.
Voilà.
Il y a eu une cigarette écrasée sur le crâne de ce malheureux. Des estafilades. Là d'après, il y a quand même quelqu'un qui a
torturé de barbarie, c'est indiscutable, mais qui ne mettent pas la vie d'Ilan Halimi en danger, de la même façon que le baron Empain a pu être libéré avec un doigt coupé.
Oui, c'est ce que voulait faire Fofana, d'ailleurs.
Mais oui, absolument. C'est qu'on ne lui a pas donné à manger pendant 15 jours.
Mais écoutez, monsieur, c'est pas vrai.
Les rapports d'autopsie sont clairs.
Non, le rapport d'autopsie est extrêmement clair. Ilan Halimi est mort des brûlures qui lui ont été infligées par le seul Fofana. Voilà, ça c'est extrêmement clair. Et il est mort de ça. Et s'il avait été libéré le soir où Fofana l'a emporté dans sa voiture, et bien Ilan Halimi aujourd'hui serait vivant. Donc il faut dire, ça c'est la vérité judiciaire, et c'est indiscutable. Et c'est
indiscutable.
Et je veux dire une deuxième chose quand même qui est extrêmement importante, c'est que sur les 27 personnes qui étaient poursuivies, il y en a deux qui ont été condamnées avec la circonstance aggravante d'avoir agi pour des motifs antisémites, et ça c'est indiscutable. Et tirer de ces deux-là, dire à partir de ces deux cas-là que toutes les banlieues sont peuplées d'antisémites, c'est faire une extrapolation qui n'a pas lieu d'être, mais qui a été faite. Je ne dis pas que monsieur.
Oui, en tout cas, pas par Alexandre Arcadie, pas par la famille Halimi.
Ça a été souvent dit dans la presse.
Oui, mais qui a bien été obligé de vivre ce drame et de lire ce. Je repensais tout à l'heure avec l'extrait de la bande-annonce qu'on entendait, ce email qui est envoyé où il est bien dit, voilà.
Qui est envoyé au rabbin. Qui est envoyé au rabbin. C'est le seul moment.
Au rabbin et à la maman.
Qui est envoyé au rabbin et qui est dans le plan crapuleux, dont je vous parlais au départ, la martingale de Fofana.
Je suis obligé de vous dire qu'il faut absolument faire une pause, on va la faire tout de suite. On va se retrouver après pour la dernière partie de l'émission. On va retrouver également Elsa Vigoureux et on va revenir sur le procès.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
On va parler maintenant quelques instants du procès, évidemment. Toute cette affaire donc a été rendue publique après la découverte du corps d'Ilan Halimi. Et puis très vite, l'affaire a été bouclée au plan policier, même si ça a pris quelques jours pour savoir où exactement se trouvait Fofana, qui était donc en Côte d'Ivoire, qu'on a ramené à Paris. Et puis il y a le procès le 10 juillet 2009. Fofana est condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, c'est la peine maximum qu'on pouvait lui appliquer. Et le lendemain matin sur RTL, Chloé Trion faisait le récit de cette dernière audience, c'était dans RTL Matin.
Que ce soit du côté des victimes ou des accusés, tous les avocats ont estimé que la peine maximale infligée à Youssouf Fofana correspondait au crime qu'il avait pensé, organisé et mis en œuvre, un crime antisémite comme l'a reconnu la Cour. Mais pour les autres accusés, 26 jeunes garçons et filles, les peines ont été échelonnées et en tout cas moins importantes que celles demandées par l'avocat général. Pour les parties civiles, le résultat était donc en deçà du message qu'elle souhaitait que la Cour envoie à la société. En revanche, beaucoup d'avocats L'avocat de la défense estimait que les jurés avaient fait preuve d'équilibre. Maître Didier Seban.
On a l'impression d'une cour d'assises et de jurés qui ont pris le temps de réfléchir à la responsabilité de chacun et de retenir la peine qui correspond à chacun d'entre eux. Donc je crois que c'est une décision de justice qui, malgré l'ampleur médiatique qui a pris cette affaire, est une décision de justice qui a été prise avec sérénité.
La réclusion à perpétuité avec 22 ans de période de sûreté pour le chef Youssouf Fofana, entre 10 et 18 ans pour ses lieutenants et 9 ans pour la jeune fille qui a servi d'appât. La famille Halimi a transmis sa déception à son avocat et sa crainte de rencontrer dans quelques années certains des acteurs du crime. Maître Francis Piner en appelle donc au parquet général pour obtenir un procès en appel.
Ce procès en appel aura lieu sans Youssouf Fofana, qui sera interrogé comme témoin. Mais donc, c'est le 25 octobre 2010 que le procès en appel débouche sur un verdict légèrement plus lourd pour quelques-uns des participants. Et en ce qui concerne la jeune fille qui a servi d'appât, elle a la même peine. Donc, je parle sous votre contrôle.
Oui, tout à fait.
9 ans. Elsa Vigoureux, je reviens vers vous. Vous avez assisté à ce procès, vous avez enquêté sur toute l'histoire. Est-ce que vous pensez que tout a été évoqué comme il le fallait?
Alors moi, Jacques, en fait, j'ai pas assisté à ces procès puisque, en tout cas, le premier, je pouvais pas y assister puisqu'il était à huis clos.
Bien sûr, non, je comprends très bien.
J'étais tous les jours au palais de justice. Et j'attendais tous les jours que sortent les acteurs de ce procès et ce que je peux vous dire c'est que d'emblée en tout cas pour revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure Youssouf Fofana lui revendique le caractère antisémite de son acte alors après
il n'a pas cessé de le faire pendant tout le procès
cessé de le faire donc en fait il n'y a pas de doute sur son intention à lui antisémite et sur son crime antisémite mais par contre je reviens aussi sur ce qu'évoquait tout à l'heure Maître Todovic, il y a quand même 27 personnes qui ont été accusées dans ce dossier du point de vue, si vous voulez des victimes, ce dossier c'est juste l'horreur absolue et il n'y a pas de doute là-dessus il faut même pas c'est l'horreur absolue, mais du point de vue du dossier et des accusés c'est très complexe parce qu'en fait, si vous voulez, il y a quand même 27 personnes, on peut pas voir un dossier judiciaire autrement que sous le prisme de ces 27 personnes si vous voulez. Il y a chacun agit d'une manière différente des autres. Entre Youssouf Fofana et puis la petite Ruth qui a été un des appâts aussi et qui avait reçu 80 euros pour servir d'appât mais qui s'était juste acheté des bottes avec et qui n'avait rien eu à voir ensuite avec l'enlèvement d'Ilan Halimi. Si vous voulez, il y a un monde entre elle et Youssouf Fofana. Et donc, il faut quand même voir ces 27 accusés. On peut pas tous les voir comme Youssouf Fofana. Si vous voulez, chacun a sa part de responsabilité. Et puis surtout l'antisémitisme dans ce dossier, il n'est pas discutable pour ce qui concerne Youssouf Fofana et pour les autres. Je rappelle quand même qu'il y a quelques personnes accusées qui n'étaient même pas au courant de qui était Ilan Halimi,
de l'identité exacte
au crime sans savoir à quoi ils participaient. Donc la faute la plus grave qu'ils ont commise, c'est de surtout n'avoir posé aucune question et de n'avoir pas voulu savoir où est-ce qu'ils mettaient les pieds.
D'avoir fermé les yeux et les oreilles.
Une des lois de la banlieue, on ne pose pas de questions.
Alors justement, on va terminer par ça, il nous reste 2 minutes d'antenne. Alexandre Arcadi, vous avez fait quelques projections avant la sortie officielle du film mercredi prochain, et une de ces projections, vous l'avez faite à quelques centaines de mètres
À 300 mètres, oui, à Bagneux, et beaucoup d'habitants de la cité sont venus voir le film, et je peux vous dire que ça a été la projection, j'ai fait 40 villes, c'est une projection d'une intensité et d'une émotion absolument incroyable. Les spectateurs, les 500 spectateurs étaient debout et ont fait une standing ovation à l'équipe qui était là parce que c'était une façon de les remercier. Comme disait un spectateur, j'avais honte d'avoir oublié Ilan, merci d'avoir fait ce film. Et ça, tout était dit quoi dans cette projection. Et la responsabilité de chacun n'est pas évidemment démontrée, mais il y a aujourd'hui, ce film-là met en perspective, quand on le voit, ce qu'il ne faut plus faire. Voilà, c'est un film sur la transmission au fond. Les jeunes qui ne connaissent pas cette histoire, ceux qui ne partagent pas l'opinion qui est de dire oui, enfin bon, attendez, c'est une affaire crapuleuse et pas antisémite. Il faut les amener voir ce film parce qu'ils comprendront la mécanique de pensée, comment la perversion, comment les dérives peuvent entraîner à des tels actes qui sont des actes graves puisqu'il y a eu mort d'homme. Et ça, il faut pas oublier.
Des actes dont souffrent aussi beaucoup de communautés, effectivement, comme évidemment, le disait évidemment elle-même, Madame Halimi, dans l'extrait qu'on a entendu.
Évidemment.
Je vous remercie beaucoup. Merci. Je rappelle donc la sortie du film mercredi, 24 jours. Le livre de Gilles Antonovitch, L'affaire Halimi du crime crapuleux au meurtre antisémite, qui paraît demain, donc.
Non, le 2 mai.
Le 2 mai, j'avais compris demain. Donc le 2 mai, en tout cas, merci de nous avoir donné la primeur. Et puis Elsa Vigoureux, qui chez Flammarion avait donc publié à l'époque son dossier sur l'affaire Halimi. L'émission est terminée, on va retrouver Flavie Flamand tout de suite après les infos, de toute façon.